Il est 8h.
C'est sans doute qu'on méritait pas plus. C'est le foot.
C'est le foot et c'était fou hier. Un huitième de finale présenté comme une formalité et qui devient un festival de buts et de rebondissements jusqu'à l'élimination des Bleus. La fatigue, les choix de Didier Deschamps, l'échec de Kylian Mbappé. Nous rejoignons dans un instant le chef du service des sports d'Europe 1 pour tenter de comprendre. Effet paradoxal d'une réforme de la politique agricole commune, les nouvelles règles risquent de décourager certains exploitants de rester en bio alors que la consommation des produits de cette filière explose. Ça sera notre dossier dans ce journal. Et puis, le Tour de France serait-il un parcours d'obstacles? Plusieurs favoris ont été victimes de chutes. Le tracé est mis en cause. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Après le match raté, des régionales pour la majorité, Emmanuel Macron veut tourner la page et déjà lancer un sujet ô combien sensible, les retraites. Alors que prépare-t-il? Est-ce bien raisonnable dans la dernière ligne droite du quinquennat? Les réponses de notre invité, l'essayiste et économiste Alain Minc.
On vous retrouve juste après ce journal à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Bucarest 2021, cela restera comme un cauchemar éternel de l'équipe de France de foot, venue à l'Euro avec le statut de favorite et éliminée dès les huitièmes de finale. Elle a été menée, puis les Français ont marqué 3 buts d'affilée avant de se faire rattraper, de rater leurs occasions en prolongation et de perdre sur un tir au but manqué par Kylian Mbappé. Alors, le capitaine Hugo Lloris s'est fait lucide ou peut-être fataliste.
On ne peut pas nous reprocher un manque de générosité parce qu'on a tout donné, on finit sur les rotules. Et il faut également mettre en avant la performance des Suisses qui ont été très forts. Quand on gagne, c'est fantastique, c'est magnifique, on aime ce sport. Et quand on perd, c'est douloureux. Et il va falloir se relever de cette défaite.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Bucarest. Vous étiez aux premières loges pendant cette longue soirée. On a besoin de comprendre ce matin, de comprendre ce qui s'est passé.
Il y a d'abord la fatigue, on va dire, des Bleus à l'issue d'une saison longue et inédite à cause du Covid. Les Bleus qui est arrivé à Clairefontaine dans des états de forme, on va dire, disparates dès le deuxième match, sous une chaleur accablante à Budapest. On avait senti des lacunes physiques inquiétantes, elles n'ont jamais été comblées. Pour preuve, les blessures Dembélé, Digne, Hernandez, Lemar, Thuram, Coman, Benzema, les Bleus terminent cette compétition en pièces détachées. Et si vous ajoutez la bulle sanitaire et l'isolement qui en découle depuis plus de 30 jours, certains joueurs l'ont mal vécu, l'ambiance était pesante, vous obtenez les ingrédients principaux de cet échec pas si imprévisible finalement.
Alors on va s'attarder un instant sur un joueur de cette équipe. Normalement, c'est un buteur, mais il rentre bredouille de cet Euro, Kylian Mbappé.
Et oui, Kylian Mbappé, le joueur que le monde nous envie le plus cher aujourd'hui sur le marché des transferts, bien lui qui adore les responsabilités, les chiffres, les trophées, bien oui, vous l'avez dit, c'est lui qui a failli. Alors à 22 ans, il va sans doute en sortir grandi, il s'est dit désolé hier soir, mais il quitte cet Euro, c'est vrai, sans avoir marqué de but, même s'il en a donné, hein, il en a donné 4 quand même. Mais si vous regardez bien les images hier soir, très peu de joueurs sont venus le consoler après son échec. Alors Mbappé, le chouchou du public, mais pas encore de ses coéquipiers.
Et puis dans la classe des Bleus, il y a celui qui est noté 3 sur 10 par le journal L'Équipe ce matin. C'est le sélectionneur, Didier Deschamps.
Eh oui, c'est dur, hein. Lui, l'obsédé du contrôle, de la maîtrise, de la gestion, il est devenu un bricoleur, en fait, par la force des choses. Tolisso, milieu droit face au Portugal, la défense à 3 hier soir, rien n'a marché. Les joueurs étaient trop fatigués, trop tendus aussi. Autrement dit, cette fois, Deschamps n'a tout simplement pas réussi à les sublimer. Ces joueurs, il a beau s'appeler Didier Deschamps, il ne peut pas gagner à tous les coups. Et la question de son avenir en bleu va peut-être se poser dans les prochains jours. Cela fait presque 10 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 en direct avec nous depuis Bucarest. On vous retrouve, hein, Jean-François, dans quelques minutes, à 8h35, pour le journal de l'Euro.
C'est une petite bombe politique dont nous avons parlé dès hier matin avec Nicolas Barré ici même. L'hypothèse d'un âge légal de départ en retraite à 64 ans. Scénario promu par plusieurs cadres de l'exécutif pour une réforme dès cet automne dans le tumulte d'une pré-campagne présidentielle. Olivier Samin, les partenaires sociaux réagissent déjà et c'est non.
Tous contre cette idée, aussi bien les syndicats que le patronat, mais pas pour les mêmes raisons. Pour les syndicats, un relèvement de l'âge de la retraite serait une mesure à la fois désastreuse, injuste et politiquement ravageuse. Des chocs, on en a déjà assez pris comme ça ces derniers temps, dit l'un d'eux. Choc sanitaire, choc économique, choc moral, pas la peine d'en ajouter un autre. Et les syndicats l'assurent, engager une telle réforme à l'automne en misant sur l'effet de sidération à quelques mois de la présidentielle, ça ne marchera pas, les Français redescendront dans la rue. Le patronat, lui, s'oppose à ce projet, non pas sur le fond. Il défend depuis longtemps un report de l'âge de départ à la retraite, mesure qui permettra d'économiser beaucoup d'argent très vite. Mais il considère qu'une telle réforme ne doit pas être lancée à la va-vite, à 6 mois de l'élection présidentielle. Les enjeux sont trop importants, dit-il. Ce doit être un choix de société débattu dans la campagne électorale qui s'annonce. Mener la réforme à la hussarde, c'est prendre le risque de la rater et de ne plus rien pouvoir faire avant longtemps.
Merci Olivier Samin. Cette information Europe 1 dont nous parlions dans le journal de 7h30, l'encadrement des loyers entré en vigueur à Paris il y a 2 ans est très peu respecté. Un logement en location sur 2 ne respecte pas les critères selon une étude Meilleurs Agents. C'est à retrouver dès à présent sur europe1.fr. L'économie avec ce chiffre, plus de 1000 milliards de dollars. C'est la valeur atteinte en bourse par Facebook hier pour la première fois de son histoire. Le réseau social venait de remporter une victoire judiciaire face à l'autorité de la concurrence des États-Unis. Les accusations d'abus de position dominante ne seraient pas suffisamment étayées, selon un juge fédéral.
C'est une tendance de fond. Une consommation alimentaire plus saine et plus durable, l'agriculture biologique fait partie, bien sûr, de la solution.
Et fort logiquement, la politique agricole commune, avec ses subventions décidées au niveau européen, devrait accompagner et encourager cette mutation. Mais voilà, la dernière version de la PAC risque d'avoir l'effet inverse. C'est le dossier d'Europe 1 ce matin.
Bonjour Maud Descamps.
Bonjour.
Les nouvelles aides de la PAC ont été adaptées pour répondre à la demande ?
Alors, il faut savoir déjà que la consommation de fruits et légumes bio a progressé. En 2020, 9 Français sur 10 ont consommé des produits bio. Il y a une demande. Et au ministère de l'Agriculture, on est très clair. Hein, hors de question de laisser ce marché en plein boom aux voisins européens. La France doit donc pouvoir devenir autosuffisante en la matière. Alors, avec la nouvelle PAC qui courra de 2023 à 2027, l'enveloppe consacrée aux conversions des exploitations vers le bio augmente de 30%, c'est une bonne nouvelle sur le papier, mais dans le même temps, cette PAC supprime les aides au maintien qui permettaient aux agriculteurs de toucher une subvention pendant 5 ans après leur conversion. Une aide précieuse, hein, puisque les rendements bio sont moins élevés que dans le conventionnel. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs déjà convertis, comme Thomas Lafoy, céréalier et maraîcher dans l'Essonne. Ce sont 50 000 euros qui disparaissent.
C'est fini l'innovation. Je ferai plus de recherche comme je fais aujourd'hui sur l'agriculture de conservation biologique. Je vais sûrement embaucher un petit peu moins, renouveler mon matériel beaucoup moins. Je vais faire le dos rond en fait. Je vais juste faire le minimum pour survivre. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit à quoi ça sert de rester en bio. Il y aura des déconversions au niveau national, c'est une évidence.
Alors je reprends ce mot des déconversions, c'est-à-dire des exploitants bio qui reviennent à l'agriculture traditionnelle, conventionnelle. Maud, ça veut dire que ce n'est plus intéressant économiquement ?
Oui, certains ne s'y retrouveront plus financièrement. D'ailleurs, selon Loïc Madeline, secrétaire national de la Fédération nationale d'agriculture biologique, on observe déjà une baisse de l'intérêt des agriculteurs pour la conversion au bio, notamment en Normandie.
On est dans une période de creux, on a peu de demandes de conversion sur la filière laitière, pas ou quasi pas sur la filière céréalière. Sur la filière viande bovine, c'est très faible. Et donc finalement, on est un peu dans l'interstice de cette PAC qui va s'éteindre et de celle qui va démarrer. Et finalement, sans signal fort en 2023, au-delà de la conversion, je pense qu'on va avoir du mal à réactiver cette bio qui est en ce moment dans un espèce de tunnel ou de couloir avec un plafond.
Avec moins de candidats à la conversion, il y a le risque de voir les prix des fruits et légumes augmenter. Et puis, autre risque, les agriculteurs vont davantage se tourner vers un autre label, la HVE, la haute valeur environnementale. C'est une certification agricole, mais qui est beaucoup moins exigeante que le bio. Elle permet notamment d'utiliser des pesticides. Pourtant, les agriculteurs qui la pratiquent pourront prétendre aux mêmes aides à la conversion que le bio.
Ah, le risque de déconversion des agriculteurs en bio. Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1 pour ce dossier de la rédaction ce matin. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes seules doit être adoptée aujourd'hui avec le vote définitif de la loi bioéthique à l'Assemblée nationale.
Une nouvelle réforme du bac. Encore un changement de formule de l'examen le plus célèbre du parcours scolaire français.
Oui, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut renforcer le contrôle continu, Virginie Riva.
L'équilibre du bac reste le même, avec 40% accordé au contrôle continu dans la note du bac et 60% aux épreuves finales. Mais ce qui change, c'est que dans le contrôle continu, seuls compteront les notes obtenues en première et en terminale, soit celles sur les bulletins. Fini les épreuves perlées, les fameuses E3C qui portaient sur le tronc commun, qui n'ont d'ailleurs pu avoir lieu qu'une seule fois avant le Covid. Une décision qui va accroître les inégalités entre élèves pour Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES.
Le contrôle continu en renforçant la part des évaluations locales, des contrôles locaux, va donner peut-être la perspective d'un bac local où finalement ce qui comptera plus c'est l'établissement d'où on vient, l'établissement d'où on a passé le bac plutôt que le bac en lui-même.
Autre nouveauté, l'enseignement moral et civique sera évalué en tant que tel après cette année marquée par l'assassinat de Samuel Paty. Énorme chantier en cours, les programmes des enseignements de spécialité devraient tous être allégés sans qu'on connaisse encore les détails. Des changements enclenchés dès la rentrée de septembre.
À chaque année son bac, visiblement. Merci Virginie Riva.
La politique, à présent avec une déclaration d'Emmanuel Macron au magazine Elle, qui l'interroge sur son souhait en 2017 de voir une femme devenir Premier ministre.
C'est ce qu'il avait dit lors de sa campagne et voici ce qu'il dit aujourd'hui. J'assume toujours autant ses propos, mais je ne vais pas changer de Premier ministre, car les élections locales, dit le Président, n'appellent pas de conséquences nationales.
Et puis, Marguerite Lefebvre nous en parlait dans le journal du Tour de France, à 7h10, cette série de chutes dans le peloton.
Notamment Caleb Ewan, le sprinter à plus de 60 km/h. Les abandons s'enchaînent, déjà 7 coureurs ont laissé tomber. Axel May, les critiques pleuvent aussi.
Eh bien, figurez-vous qu'avant même le départ de l'étape, hier, David Gaudu, le grimpeur de l'équipe Groupama FDJ, avait prévenu « Attention aux petites routes menant à Pontivy ».
C'est un poil presque trop dangereux pour le Tour et c'est dommage de mettre des arrivées comme ça, hyper technique alors qu'on proclame la sécurité des coureurs avant tout.
Gaudu a chuté sans gravité en fin d'étape, tout comme le sprinter maison Arnaud Démare. Et à l'arrivée, leur manager Marc Madiot fulminé. « Je suis père de famille et je n'ai pas envie de voir mon gamin faire cycliste professionnel. Après ce qu'on a vu, ce n'est plus du vélo ». 4 abandons samedi après 2 chutes massives, dont une du fait d'une spectatrice. 2 abandons hier, dont celui de la fusée australienne Caleb Ewan, tombé dans le sprint final, clavicule fracturée. Et seulement 3 étapes du tour ont eu lieu. Julien Alaphilippe, actuel maillot vert du meilleur sprinter.
Ouais, beaucoup de nervosité, comme à chaque fois sur les premières étapes du tour. Mais là, j'ai jamais vu ça, je crois. Ah bah oui, aujourd'hui, d'arriver en un seul morceau et sur le vélo, c'était déjà une prouesse, ouais.
Du côté d'ASO, l'organisateur, on estime en gros que le tracé n'était pas plus dangereux que ça. Le Gallois, Geraint Thomas, et le Slovène, Primož Roglič, qui ont tous deux chuté hier, ont en tout cas peut-être déjà perdu le tour.
Axel May qui nous fait vivre ce Tour de France. 4e étape aujourd'hui, c'est toujours en Ille-et-Vilaine. Mathieu Van Der Poel reste maillot jaune. Et les coureurs vont parcourir 150 km de Redon à Fougères.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. On retrouve Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'économiste, essayiste, conseiller politique Alain Minc. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'économiste et conseiller politique Alain Minc.
Bienvenue à vous et bonjour Alain Minc.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Quand on perd un match d'importance, faut-il revoir de fond en comble toute l'équipe, interroger sa stratégie et remettre en cause éventuellement le chef ? Je parle des régionales bien sûr. Vous comprenez qu'il n'y ait aucun changement au gouvernement, si ce n'est peut-être à la marge ?
Moi, j'étais de ceux qui pensaient que le président devait enjamber cette affaire en disant que c'est pas de son niveau et laisser les gens qui se réclament de lui s'allier là à Madame Pécresse, ailleurs à Monsieur Rousset ou autre. Il a mis les mains dans le cambouis, donc il porte une partie de la responsabilité ou du prix politique de cette défaite. Bon, heureusement, la page va être tournée. La question, c'est qu'on est maintenant en élection présidentielle. Le panorama, nonobstant l'abstention, a changé. C'est vrai qu'on n'est plus nécessairement dans un match à deux.
On va en parler. Vous parlez de match, justement, à la main. Ne faut-il pas qu'à un moment, le président de la République acte quand même de la défaite, l'admette pour en tirer des leçons, comme le fait d'ailleurs un sélectionneur, quelle que soit l'équipe.
On va voir les leçons que le sélectionneur tire. Non, mais la réponse sera dans les annonces politiques qu'il va faire. Pourquoi voulez-vous qu'il change son Premier ministre ? Son Premier ministre a la même popularité que lui et fait plutôt bien, voire très bien, le travail. Alors, si c'est pour changer des ministres, on a vu dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France ce qu'est le poids politique des ministres. Vous rajoutez des ministres, ça ne déplace pas un suffrage. Si on croit que changer des ministres, ça va modifier le contexte politique du pays, c'est une plaisanterie.
Donc on ne change pas, pardonnez-moi, une équipe qui perd.
Non, ce n'est pas une équipe qui perd. Je veux dire, il appartient maintenant au président de la République d'annoncer comment il va jouer cette dernière année. Mais d'une certaine façon, il a eu tort de descendre sur le terrain. Il a raison de remonter très vite dans les tribunes.
Alors il y a un autre compétiteur, peut-être est-ce un buteur, Xavier Bertrand. Il y a quelques jours à ce micro sur Europe 1, il a estimé à la main qu'à l'occasion de ce scrutin, le duel annoncé Emmanuel Macron-Marine Le Pen en a pris un sacré coup. Est-ce que c'est votre avis ?
Non, mais l'hypothèse du candidat de la droite démocratique au deuxième tour existe. Pourquoi ? Le candidat de la droite démocratique, pour l'instant, il n'y a que Xavier Bertrand. Il tourne à 16-17. Emmanuel Macron, il est à 24. Une voix que perd Macron, elle ne va pas chez les insoumis, elle va sur le candidat de la droite démocratique. Donc le jeu est en effet ouvert. Cela dit, Xavier Bertrand, on le voit, joue au poker menteur. Il veut que ses concurrents s'effacent parce qu'il dit « je ne me retirerai en aucun cas ». Je ne vois pas comment, s'il y a une primaire, comment il pourra dire « je m'en abstrais ». Quand la droite française se divisait historiquement, elle se divisait avec 40% de l'électorat. Jacques Chirac et Édouard Balladur se partageaient grosso modo en 35 et 40%. Si la droite française arrive à se diviser avec 20% de l'électorat,
ce serait
cassé,
la droite,
alors là elle est vraiment
dire,
la plus bête du monde pour des décennies.
Mais ça veut dire, à l'inverse, à la main, que si la droite ne se lance pas dans cette bataille d'égo dévastatrice, elle a de fortes chances de l'emporter en vue de 2022.
Chance, mais elle a en effet des chances. On est dans un mouchoir de poche. Ce que je ne comprends pas dans l'attitude d'un certain nombre de responsables de la droite, c'est de dire « nous avons perdu en 2017 à cause des primaires ». C'est tout à fait faux. En réalité, je me souviens, moi qui étais un supporter d'Alain Juppé, de l'atmosphère le soir des primaires. François Fillon était élu aux yeux des Français. Après, il a entamé la descente aux enfers dont il est en partie responsable. Mais c'est ça qui a fait perdre la droite. Ce ne sont pas les primaires. Les primaires donnent un élan. Et donc, c'est quand même la méthode la plus démocratique. Je veux dire, quand on voit les succès prodigieux des sondeurs, on se dit que déterminer le choix d'un candidat à l'élection présidentielle par le biais des sondages, c'est quand même une très
jusqu'à dire que la primaire est un choix le plus démocratique, connaissant le nombre parfois d'électeurs et des gens qui vont venir voter.
Mais une primaire ouverte est en effet ce qu'il y a de plus démocratique. Ça vaut mieux qu'un échantillon de 1200, 1500 ou 3000 personnes. Et ce serait la logique. Et à ce moment-là, je ne vois pas comment Bertrand pourra s'en abstraire.
Pour
il n'est pas assez
il ne
fort
s'y
politiquement.
Pas.
Mais c'est là qu'il joue au poker menteur. Il a raison. Je veux dire, il a tout à fait raison. Il pense que les autres plieront. Je ne suis pas sûr.
Et les autres pensent qu'il pliera.
Non, mais c'est pas les autres, c'est le concept de primaire. Mmh. Lui pense que les autres plieront parce qu'ils ont moins de caractère que lui, et les autres pensent que la force d'une primaire l'obligera à s'y soumettre.
Quelle partie, on verra, décidément.
On verra, mais c'est en effet le moment intéressant de la scène.
Puisque vous parlez de caractère des uns et des autres, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, quelle différence fondamentale voyez-vous entre les trois ?
Ils sont sur trois nuances politiques évidentes. Wauquiez est nettement plus à droite, il l'assume. Bertrand essaye de faire du Seguin, c'est-à-dire une forme de populisme. Et Valérie Pécresse est beaucoup plus conforme à la droite libérale
et européenne.
Vous dites
cela parce que vous la soutenez ?
Pardon ?
Vous dites cela parce que vous la soutenez, Valérie Pécresse ?
Non, je vous décris un panorama. Oui, j'ai dit que je votais pour elle en région parisienne et que je trouvais inconvenant le maintien au deuxième tour de M. Saint-Martin, dont le programme, à une feuille de papier à cigarette près, était proche du sien. Mais, je veux dire, je pense qu'il faut tourner très vite la page de ces élections régionales qui sont quand même un raté politique pour la majorité d'une intensité inhabituelle.
Oui, mais alors comment un parti comme La République En Marche à la main peut-il continuer à exister à la faveur d'un seul homme, Emmanuel Macron ?
Mais vous avez dit un mot qui n'existe pas, vous avez dit un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Un parti politique, c'est quoi ? C'est une tradition, c'est une culture, des militants, une idéologie, un passé, une aspiration. rien de tout ça n'existe dans cette organisation gazeuse qui est En Marche. En Marche était là pour soutenir un homme dans une démarche qui était une démarche talentueuse et personnelle et ne pouvait pas se constituer depuis en partie. Regardez la petite boutique de François Bayrou. Le MoDem paraît beaucoup plus puissante qu'En Marche parce qu'elle existe. Qu'elle est ancrée dans une tradition historique. Parce que la démocratie chrétienne, c'est quelque chose qui en France a toujours existé. Et quand on dit que le gaullisme a connu le même processus, c'est faux. Je veux dire, dans les années 50, le général de Gaulle avait créé un parti.
Donc le macronisme est une coquille vide.
Non, mais Macron existe dans des proportions considérables. Mm-hmm. Le macronisme comme idéologie est quelque chose qui, à mon avis, se ramène à l'axe principal d'Emmanuel Macron, qui est la conviction européenne, et quant aux troupes macronistes, elles n'existent pas, elles sont émiettées.
Il y a l'axe, il y a le positionnement d'Emmanuel Macron. Quel est-il ? Quel espace a-t-il hier matin à ce micro à la main que le directeur de la Fondapol, Dominique Régnier, estimait que la droitisation de la vie politique était un mouvement profond, qu'il y avait une poussée des valeurs et des positionnements de droite. C'est aussi votre constat ?
Je ne suis pas convaincu de ça. La preuve en est que la gauche fait un score considérable, et c'est pas une gauche droitisée, c'est une gauche racialisée, certes pour une part, mais pas droitisée. Je crois qu'en réalité, il faut revoir la scène telle qu'elle était au départ. Qu'est-ce qu'est le macronisme ? Le macronisme, c'est en réalité un centrisme sublimé par le talent d'Emmanuel Macron.
Certains disent un extrême centrisme.
Mais c'est une vérité. Mm-hmm. François Bayrou a amené le centre en 2007 à 20%. Bon, Macron, en y ajoutant son talent personnel, l'a amené à 24%. Ça fait d'ailleurs deux fois qu'il y a des présidents centristes qui sont arrivés à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron. Et pourquoi sont-ils arrivés ? Parce que l'un et l'autre avaient un talent tout à fait exceptionnel. Quand vous êtes centriste, pour arriver à l'Élysée, il faut être plus talentueux que quand vous êtes l'émanation d'un vieux parti.
Oui, le centre et la droite, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas laisser l'espace libre à droite et souhaite remettre la très contestée réforme des retraites sur l'ouvrage d'ici à la main qu'à la fin du quinquennat. Est-ce que c'est le bon moment dans cette dernière ligne droite ?
Je pense qu'on est en train de poser le problème d'une manière erronée. La réforme des retraites est à l'ordre du jour de l'élection présidentielle. Comment pensez-vous qu'un candidat sérieux pourra ne pas dire ce qu'il fera ? Donc la question n'est pas tant de savoir si la loi est votée en novembre 2021, c'est de savoir ce que le candidat Macron assume en termes de réforme des retraites. Moi, je suis convaincu que nous sommes dans l'urgence d'envoyer le signe du passage à 64 ans. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier qu'il y a des élections en Allemagne. Il s'avère maintenant que le candidat CDU a de bonnes chances de gagner. L'Allemagne va redevenir économiquement un peu orthodoxe. Nous avons merveilleusement, économiquement, géré cette passe difficile, mais quand même à guichet ouvert. Donc il va bien falloir envoyer au monde un signe de sérieux.
Un signal de sérieux, d'accord. C'est pour ça qu'elle est nécessaire, selon vous,
mais
en ce moment.
C'est le seul signe de sérieux qui a des conséquences majeures que l'on puisse donner. C'est pas en disant qu'on va réduire le nombre de fonctionnaires.
Ça veut dire qu'à la main, vous dites qu'on fait la réforme pour les autres, notamment pour les Européens, telle que parfois elle a été demandée, d'ailleurs, par l'Europe.
Attendez, on fait la réforme pour les ceux qui permettent aux fonctionnaires français d'être payés. C'est-à-dire que le monde entier nous finance. Nous sommes quand même le principal emprunteur européen. Il y a une confiance dans la France que témoigne d'ailleurs l'attractivité française. Mais cette confiance, il faut empêcher qu'elle ne s'érode. Et donc, une réforme des retraites simple, même douloureuse, mais qui correspond au bon sens. Vous savez,
pourquoi ce serait le bon sens, un report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ? En quoi c'est le bon sens ?
Parce que ça colle à l'espérance de vie. Quand la retraite a été en réalité inventée au 19e siècle par Bismarck, quand vous compariez espérance de vie et retraite, et si vous appliquez les critères à aujourd'hui, vous verriez que l'âge de départ en retraite devrait être 84 ans. Nous n'en sommes pas
là. Ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est la seule manière de faire cette réforme ? Un exemple à la main, dans un rapport sur les grands défis économiques remis à l'Élysée, rapport piloté par Olivier Blanchard et Jean Tirole, il est dit que cette réforme des retraites ne peut être menée sans qu'il y ait d'autres évolutions sur le marché du travail pour les seniors actifs. Il faut qu'il y ait une réforme du système de santé pour soutenir les travailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas
Il faut revenir à des choses simples. les Tyrol et Blanchard veulent que la réforme qui avait été sur la table soit reprise et avec un délai même raccourci. Moi, j'étais pour cette réforme avec ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire elle s'applique pour les gens qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail. Est-ce que vous avez le souvenir de ce qu'était le calcul de votre propre retraite au moment du pseudo-projet de réforme ? En aucun cas, c'était d'une complicité, d'une complication incroyable. Je pense qu'on est à un moment, après ce qu'on a vécu, où il faut rester à des choses simples. Et le passage de 62 à 64 ans, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, à défaut de l'aimer ou de l'approuver.
Y compris les conséquences, qu'elles soient sociales, etc., avec peut-être des évolutions, des conflits sociaux. Ça, vous dites, peut-être
non,
qu'on y passera.
Je ne suis pas sûr qu'un conflit social institutionnel entre les syndicats et le président soit tellement que cela nuisible au crédit du président.
Eh bien, c'est dit. En tous les cas, les retraites, c'est un sujet de présidentiel pour Alain Minc. C'est bien cela ?
Évidemment, pour la présidentielle et pour chacun de nous.
Merci Alain Minc d'avoir été notre invité ce matin. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Ainsi qu'à nos auditeurs, évidemment.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info, la météo et le journal de l'euro. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1. Un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Avec un mot d'abord à la une ce matin, en première page de la Dépêche du Midi, du Parisien aujourd'hui en France, de l'Est républicain ou du Télégramme. Ce mot, c'est désillusion après l'élimination des Bleus. Hier soir, en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse. 3-3 après prolongation et une défaite au tir au but. On va y revenir dans un instant dans le journal de l'Euro. Une compétition sur laquelle veille l'Europe. Un des vice-présidents de la Commission a dit hier ses doutes quant à l'organisation des demi-finale et de la finale au stade de Wembley à Londres. 60 000 spectateurs autorisés, alors que l'Angleterre fait face à une augmentation des cas de Covid liés au variant Delta. La décision de l'UEFA devra être prise, dit-il, en connaissance de cause. De nouveaux records de chaleur battus au Canada, 47,9 degrés enregistrés dans la petite bourgade de Lytton à l'ouest du pays. Dans la région, des centres de rafraîchissement ont été ouverts, des campagnes de vaccination annulées, des écoles fermées. Alors cette vague de chaleur qui va persister tout au long de la semaine est-elle directement liée au réchauffement climatique ? Sébastien Krebs a posé la question ce matin à David Phillips, climatologue et chef du service météo du Canada.
Le changement climatique ne crée pas de vagues de chaleur. Il ne crée pas de tornades ni de feux de forêt. Ce qu'il fait, c'est qu'il aggrave tout. Il rend tout pire, plus gros, plus grave.
Oui, nos grands-parents ont connu une vague de chaleur similaire, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, c'est pire parce que c'est plus tôt dans l'année, plus intense. Donc je pense que l'homme a une part de responsabilité. Ça ne vient pas uniquement de l'industrie. Il y a d'autres raisons. Mais nous sommes en partie responsables. C'est comme si on donnait des stéroïdes à la météo. On rend tout plus intense. Pour moi, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'un effet humain sur cette vague de chaleur.
Le chef du service météo du Canada invité ce matin de Sébastien Krebs à 6h40. Après l'élection, l'échec des régionales, pas de changement de Premier ministre en vue. Emmanuel Macron l'assure dans une interview au magazine Elle. Le chef de l'État qui cherche toujours à capitaliser sur son bilan économique. Inauguration aujourd'hui des bureaux de la banque JP Morgan qui a fait de Paris sa nouvelle place forte en Europe après le Brexit. Chez les Républicains, après ce scrutin, la course à l'Élysée se prépare avec un sage à la baguette, Jean Léonetti, le maire d'Antibes, Aurélie Herbemont.
Je vais voir les trois vainqueurs des régionales avant la fin de la semaine, confie Jean Léonetti. Objectif sonder Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand à propos du mode de sélection dont il présentera une ébauche mardi prochain au bureau politique. Un vote électronique, a priori, ouvert au-delà des militants LR. Problème, Xavier Bertrand est hostile à toute idée de primaire, d'où cet avertissement d'un cadre. Ceux qui veulent le soutien de LR doivent respecter le parti. On a les militants, les élus et l'argent. Si Jean Léonetti travaille sur ce système de sélection, c'est que le grand sondage de 15 000 électeurs de droite risque de ne pas suffire à mettre tout le monde d'accord, concède une dirigeante. Cette enquête obligera en tout cas chacun à se dévoiler avant la fin de l'été. La question a été reposée hier à François Baroin, qui avait dit non en septembre. Réponse de l'intéressé, vous serez les premiers informés si je change d'avis. Bref, avant d'avoir un candidat, la droite attend encore la liste précise des prétendants.
Aurélie Herbemont, le Tour de France, dernière étape en Bretagne aujourd'hui, 150 km entre Redon et Fougères avec Mathieu Van Der Poel, toujours en jaune.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h34, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Eh bien écoutez, une météo qui est en pour l'instant assez calme avec de la pluie, et il y a de la pluie qui remonte du sud de la France, qui arrive aux portes de Paris, et puis une autre pluie qui se situe près de l'Atlantique. Bon, ce sont des pluies calmes, je le disais, mais ensuite elles vont s'énerver un petit peu, elles vont commencer à s'exciter et nous allons avoir des orages, des averses, des giboulées, etc. Enfin bref, le cocktail auquel nous sommes accoutumés depuis maintenant plusieurs jours, en évitant peut-être tout le sud-ouest, le bassin méditerranéen, les Cévennes, la basse vallée du Rhône et les Alpes. Dans toutes ces contrées, les averses seront beaucoup plus discrètes. On peut parler d'ondées et de nuages souvent, disons, assez convenables. Ils laisseront passer le soleil. Voilà, les températures maximales entre 18 et 22 sur la moitié nord, 23 à 30 sur la moitié sud. Et tout à l'heure, je vous parlerai de la suite qui n'est pas forcément folichonne. Ça sera pas mal vendredi quand même. Allez.
On note vendredi pour le match à Espagne-Suisse. Bon, j'y reviens pas. On va pas se fâcher. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h35. Le journal de l'Euro avec Jean-François Pérez en direct de Bucarest. Bonjour Jean-François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On était ensemble dans le journal de 8h déjà en direct de Bucarest. Après,
on bégaye un peu
après une nuit cruelle pour le foot français, faut bien le dire. Les Bleus éliminés au tir au but par la Suisse dès les 8e de finale. C'était en direct sur Europe 1. Cyril Delamorinerie au micro pour le dernier des tirs au but.
Il faut marquer Kylian. Allez, c'est parti, et c'est l'arrêt, c'est fini, la France est éliminée. Kylian Mbappé.
On se fait du mal.
Voilà, 3 partout, désolé, 5 tirs au but à 4, j'aurais bien aimé refaire l'histoire, mais ce n'est pas possible ce matin. Ça faisait 83 ans que les Suisses n'avaient pas remporté un match à élimination directe dans une grande compétition. Alors il y a évidemment un parfum de triomphe pour eux face à des champions du monde qui étaient, on l'a dit, trop diminués, trop tendus, trop fatigués pour prétendre à mieux. Et Didier Deschamps, à la fin du match, en était évidemment le premier affecté.
Ça fait mal, j'ai vu un vestiaire très triste, on a eu beaucoup d'échanges avec les joueurs. Vous savez, j'ai un groupe qui est uni, qui est solidaire, qui sait très bien par où on est passé. On a connu des moments merveilleux. Donc, quand l'équipe de France gagne, c'est avant tout le mérite aux joueurs. Et quand ça se passe moins bien, ben c'est ma responsabilité. Mais je l'assume, il n'y a pas de problème là-dessus. On avait l'envie, l'ambition, la force aussi de poursuivre. Mais malheureusement, ça s'arrête là.
Voilà Deschamps qui n'a pas voulu parler de son avenir. L'objectif de cet Euro, c'était quand même les demi-finales, hein, donc c'est raté. Restera-t-il à la tête de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2022 ? Réponse sans doute dans les prochains jours.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, un homme avait tout vu.
Et oui, c'est notre consultant Guy Roux, en direct sur Europe 1 là aussi. Alors que les Bleus menaient 3-1 après le but magique de Pogba et que nous pensions tous qu'ils allaient l'emporter, eh bien le sage Guy Roux nous a remémoré plusieurs fois la remontée de la Croatie face à l'Espagne de 3-1 à 3 partout. Il avait prévu le résultat, il avait prévu l'élimination et il s'en est expliqué à la fin du match.
J'entendais tout le monde dire c'est fini et je crois que les joueurs le croyaient aussi. Ils ont arrêté ils n'ont jamais fait un bon jeu défensif, mais ça a été encore pire. C'est pour ça que j'ai senti qu'on aurait pu le perdre par un quatrième but, hein, assez facilement.
Voilà, c'est cinglant, mais c'est vrai. Les Bleus trop friables en défense, avec en plus de nouvelles blessures à déplorer, dont celle de Kingsley Coman, qui a suscité un dialogue extrêmement virulent entre le joueur qui voulait continuer et le staff des Bleus qui voulait le remplacer. Voilà, alors la France aurait-elle pu aller au bout de ce tournoi ? Franchement, ce n'est pas sûr, parce que les signaux négatifs semblaient s'accumuler au fil des jours. L'équipe de France qui va rentrer ce matin à Paris, place aux vacances pour les joueurs, et on retrouvera les Bleus cet automne.
Bon, vous allez me prendre un petit peu de miel, travailler, reposer un petit peu cette voix, Jean-François Pérez. Et même si on est triste pour les Bleus, ben non, mais on est tous un peu assommés ce matin, donc rassurez-vous, à Bucarest comme à Paris.
C'était pas prévu comme ça. Hein.
L'Euro, cela dit, continue, même sans les Bleus. Le programme du jour, Jean-François.
Avec un match extraordinaire en perspective entre l'Angleterre et l'Allemagne. Mmh. C'est à 18h à Wembley. Et puis Suède-Ukraine à 21h. Évidemment, tout cela est à vivre sur Europe 1 et dans Europe 1 Football Club qui continue autour de Lionel Rousseau. On a encore plein de belles histoires à vous raconter jusqu'au 11 juillet. Le suspense est total ce matin sur le futur vainqueur de cet Euro.
Bah oui, ça devait être nous.
Voilà.
Comment on fait maintenant?
Tout est relancé.
Bon, Jean-François Pérez, allez, je vais pas remonter vous le moral, je sais pas comment on peut vous aider à distance, Jean-François.
Bah déjà, aller prendre un petit café.
On va prendre un petit café et puis on va parler du match. Voilà. On va le revivre, ce match.
Exactement.
Tant et tant de fois. Merci Jean-François Pérez et bonne journée.
Merci.
Il est 8h38.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Peut-être jouez-vous chez vous à reconnaître la voix des uns des autres. On s'est couché un peu tard hier, parfois on a crié. On va tester avec le médecin de la maison. Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Oh non, ça va. Ça va. Ce matin, un petit peu grave peut-être. Ce matin, vous nous conseillez à l'approche des vacances d'été de tout simplement bien nous hydrater.
Eh oui Mathieu, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette chronique sur l'hydratation? Mais je vous rassure, c'est pas parce que c'est la fin de saison et de l'aventure que je vais bâcler ma sortie. Je vous promets que vous allez apprendre des trucs sympas. Alors oui, ça paraît trivial, mais il est extrêmement important de bien s'hydrater en été, car le manque d'eau, le manque d'hydratation va être à l'origine de deux pathologies extrêmement fréquentes que nous médecins rencontrons beaucoup plus, à savoir l'infection urinaire chez la femme et la fameuse colique néphrétique.
Donc le simple fait de boire pourrait nous éviter d'avoir à la fois une infection urinaire et la colique néphrétique?
Oui, alors c'est peut-être pas à 100%, mais ça permet de réduire énormément le risque pour l'infection urinaire. C'est assez simple. Si vous ne buvez pas suffisamment, les urines vont être beaucoup plus concentrées et donc plus propices au développement des bactéries. D'ailleurs, en cas d'infection urinaire, il est possible de la faire passer dans 25% du temps simplement en buvant beaucoup d'eau. Cela veut donc dire qu'il est possible de se passer d'antibiotiques par la simple hydratation. Quant à la colique néphrétique, je vous rappelle qu'il s'agit de la formation d'un petit calcul, le plus souvent de calcium, qui va être très concentré lorsque vous ne buvez pas assez, qui va venir bloquer le passage des urines, le plus souvent entre le rein et la vessie, et cela va être à l'origine d'une douleur absolument insupportable dans le dos qui ressemble, si on en croit ces messieurs, à des contractions lors d'un accouchement.
Oui, si on en croit ces messieurs qui vous parlent d'accouchement, on pourrait débattre de ça pendant des heures, cela dit, pareil que c'est extraordinairement douloureux. Alors, du coup, on boit tout simplement de l'eau.
Et oui, et vous remarquerez que même en buvant de l'eau, on peut aussi se réveiller avec la gueule de bois après la défaite de la France hier soir. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors oui, buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée et par petites quantités pour pouvoir aller uriner régulièrement. La fréquence de passage aux toilettes est presque aussi importante que l'hydratation. Pour le reste, l'eau du robinet fait parfaitement l'affaire. Inutile de dépenser votre argent dans de l'eau minérale en bouteille pour deux raisons. La première, c'est que les eaux de distribution en France sont garanties d'être potables par la loi, donc extrêmement contrôlées, le tout pour un coût dérisoire. Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous buvez de l'eau en bouteille, vous ne le savez pas, mais vous allez ingérer des microparticules de plastique qui vont se mélanger à l'eau, et tout ça sans parler de l'impact écologique de ce plastique sur notre planète.
Évidemment. Merci Jimmy Mohamed. Buvez de l'eau. On vous retrouve tout à l'heure à 15h pour Sans Rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.
Et nous parlerons d'urgence chirurgicale, appendicite, hernie et occlusion n'auront plus aucun secret pour vous.
A tout à l'heure Jimmy, merci beaucoup, il est 8h41. Fanny Agostini est avec nous, notre planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, ce matin vous nous parlez d'une trouvaille de l'université de Cambridge qui pourrait bouleverser l'industrie du plastique à usage unique. Tu en parlais de plastique de bouteille à l'instant. Grâce aux araignées.
Et oui, grâce aux araignées, grâce à la merveille de bio-ingénierie que sont les toiles d'araignées, des chercheurs de l'université britannique sont parvenus à mettre au point un polymère durable et entièrement biodégradable en s'inspirant de la soie d'araignée à partir de l'un des matériaux, on peut le dire, naturels et les plus résistants au monde. Les chercheurs ont tenté d'imiter ce tissage, le tissage des araignées, en assemblant des protéines végétales de façon à ce qu'elles reproduisent ce maillage spécifique pour former une matière solide et étanche tout comme le plastique. Un substitut de plastique donc qui ne nécessite aucun recours à l'animal et il peut être fabriqué en réutilisant surtout la matière de nos déchets alimentaires.
Ah oui.
Vous comprendrez alors qu'il y a ici un véritable potentiel de circularité.
Alors étant donné les prévisions de croissance de la demande alimentaire et du plastique à usage unique, on en parle souvent, ce nouveau matériau inspiré des araignées, c'est une aubaine.
C'est une sacrée aubaine. Avec l'augmentation de la population, les emballages plastiques qui accompagnent notre nourriture vont augmenter fatalement. Le WWF prévoit d'ailleurs une augmentation de 40% de la production de plastique d'ici 2030. Or, les emballages représentent déjà près de la moitié des 340 millions de tonnes de déchets plastiques produits à travers le monde. Celui-ci étant déjà saturé de dérivés du pétrole, il est grand temps de substituer au plastique un matériau qui puisse répondre aux précautions sanitaires sans saccager la planète.
Et pour autant, vous nous invitez à ne pas tomber dans le piège du business as usual, à savoir le maintien de nos modes de consommation.
Absolument, Mathieu, c'est cette possibilité de remplacer une partie du plastique polluant par un matériau biodégradable ne peut servir d'alibi pour jeter tous nos plastiques à usage unique dans la nature. On voit mal d'ailleurs les écosystèmes parvenir à absorber tous ces déchets, même biodégradables, s'ils continuent d'être produits et dispersés dans les mêmes quantités massives qu'aujourd'hui. D'autant plus que la création de matériaux, même lorsqu'ils sont biodégradables et biosourcés, même ce fameux plastique inspiré de l'araignée, consomme toujours de l'énergie. Amortir l'impact environnemental de la croissance démographique et des conditions de vie est primordial, mais le réduire est d'autant plus une nécessité.
Merci beaucoup Fanny Agostini. Notre planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1. 8h44, Julie est là. À côté de moi, Nicolas Canteloup arrive, la revue de presse. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, c'est à vous Mathieu Béliard pour les titres de l'actu.
Et oui, dans trois dodos, chers auditeurs, c'est les grandes vacances, sachez-le,
oui,
les grandes vacances, trois dodos. Enfin, les grandes vacances pour certains, et pour d'autres, ça va être des très, très, très grandes vacances.
Mais, oui, bon, ça va.
Suivez mon regard, allez. Mais revenons à l'info du jour. On a perdu, on le sait. Ouais, ouais. Regarde donc la France bouger, mais regarde la France chialer surtout. Car oui, l'info du jour... Nous sommes le 29 juin et nous vivons dans un monde où la France a perdu contre la Suisse. Le match a fini à minuit, je me suis couché juste après. Je vais vous le confier, j'ai pleuré jusqu'à 3h30 et à 3h45 le réveil a sonné. Hier soir on est passé, vous pouvez stopper la musique, ouais. la marche funèbre. On est passé par plein de sensations, un match à rebondissements, on est passé de Deschamps en démission à Benzema président, puis ensuite on a gueulé enfoiré de Suisse à la con, puis ensuite à Mbappé en prison. Voilà, c'était les quatre cris majeurs de cette rencontre.
Beaucoup c'est vrai qu'on réfléchit pas beaucoup.
C'est vrai. Voilà, toutes ces émotions en 90 minutes, un match aux multiples rebondissements, on l'a dit. Et oui, hier on a eu plus de morts d'AVC en une soirée que de morts du Covid en un an. Alors, ce matin, chers auditeurs, on a une pensée, bien sûr, ce matin, pour les parents qui ont appelé leur enfant Kylian il y a 2 ans. Voilà. Hein. Il aurait mieux valu l'appeler, je sais pas, Bernard, Jean-Christian, ou même Walter, pourquoi pas Walter. L'autre info, rien à voir, c'est la chasse. La chasse à la glu. La chasse à la glu déclarée illégale par le Conseil d'État. Ça, c'est triste. C'est une méthode de drague en plus qui disparaît pour Dominique Strauss-Kahn. Bon courage à lui.
Oh là, oh là. Merci Mathieu.
Je vous en prie.
Allez, on poursuit avec cette énorme déception. L'équipe de France qui s'est fait battre par la Suisse. Didier Deschamps, la France sort de cet euro prématurément.
Non, écoutez, je crois que quand on subit une déroute pareille, bon, ben, le mieux c'est de faire comme Marine Le Pen après sa branlée au régional, hein, et de dire que... Bon, on n'a pas réellement nous perdu, c'est plutôt les Suisses qui ne nous ont pas laissé gagner, qui nous ont empêchés.
Oui, excusez-moi, je ne fais que passer par solidarité, car c'est vrai, nous on a perdu, c'est totalement, si nous n'avons perdu, totalement de la faute de l'adversaire qui nous a empêchés, il faut bien le dire, empêchés de gagner.
Oui, bah c'est surtout le pénalty raté de Kylian Mbappé qui a éliminé la France, hein.
Oui, bon, c'est une analyse. Bon, c'est sûr que oui. Si le meilleur attaquant du monde est de tous les temps, Kylian Melon avait marqué ne serait-ce qu'un but, un petit but hein, dans cette compétition, ben, ça nous aurait grandement arrangé. Bon. Donc, si je résume un petit peu cet euro, bon, ben, voilà, on bat l'Allemagne sans marquer de but. Bon, contre la Hongrie, on fait un match nul, très nul. On fait rematch nul contre les Portugais. Puis là, on a essayé donc une autre technique contre les Suisses, c'était de perdre en étant mauvais. Non, je crois qu'on a été plutôt constant dans la forme de régularité que nous avons appliquée.
Oui, puis faut vraiment le constater, Kylian Mbappé n'a vraiment pas brillé hein, pendant 7 euros.
Oui, bon, c'est un constat, ça peut arriver. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a... Il y a peu de chances qu'il signe au Real de Madrid, hein. Bon, mais il y a toujours du fait dans toute chose de malheur est bon, comme disait ma grand-mère. Il y a déjà une bonne nouvelle qui est arrivée ce matin. Bon,
ah bon
il y a le FC Dijon qui a envoyé un mail et qui fait une offre de 10 euros sur Kylian.
10 euros sur Kylian.
Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours de l'argent. C'est pas déjà pas si mal.
Non, mais bon, il y a quand même eu les 2 buts de Karim Benzema.
Oui, bah ça se confirme. Sale semaine pour le Rassemblement National.
Il ne voulait pas qu'il joue.
Pardon, excusez-moi. De... Ah. Bonjour, excusez-moi, c'est Zinedine Zizou.
Bonjour, Zinedine. un petit mot de soutien à Didier, peut-être.
Oui, bien sûr. Ouais. Tout mon soutien à Didier dans ce moment difficile. Si... Voilà, je comprends. S'il veut démissionner, ben voilà, c'est on peut comprendre. C'est, voilà.
Oui, c'est vrai.
Ce qui serait compréhensible après une élimination aussi, aussi ridicule quand même. Voilà, donc je tenais à dire que je suis là, je suis disponible pour rendre service à mon ami Didier. Et s'il le faut, ben voilà, je prendrai son poste, son salaire, et la voiture de fonction aussi, et puis l'appart. Voilà, par amitié pour mon pote Didier.
C'est, beau,
c'est très aimable à vous. Hein. Voilà. La Suisse a donc éliminé la France hier soir au tir au but.
Bravo la Suisse, bravo la Nati, bravo les comptables et même les experts comptables.
Ah, vous voilà Nicolas Barré, notre éditorialiste économique. Ah, vous êtes content de la victoire de la Suisse, hein, on imagine.
Oh, mais comment j'ai passé la soirée de ma vie là. Oh, quel match, mais quel match. Non, c'est... Ah, ben, la Suisse, c'est mon pays de cœur. C'est banques, c'est gestionnaires de fortune, c'est experts comptables. Oh, qui gagne, il gagne. À minuit, j'étais dans ma Skoda Octavia à faire le tour du Palais Brongniart en klaxonnant.
Oh là là, la soirée de folie, hein, on dirait.
Mais ça avait démarré sur les chapeaux de rouge. Parce qu'en fait, j'avais pas regardé le match tout seul, tu penses. Ah. Oh, j'avais invité deux potes à moi, Hans et Klaus, et deux contrôleurs de gestion de Zurich. Oui, on est devenus potes parce qu'on s'était rencontrés en 2008 pour commenter la crise des subprimes pour la Deutsche Economic Zeitung. C'est le journal, la gazette de là-bas. Bref, on a passé une soirée de dingue. On s'est fait un plateau télé avec de la purée de céleri, un dos de cabillaud et des carottes Vichy. Oh, le truc de ouf. On avait fait chauffer la carte bleue, je peux te dire. Mais on s'est dit, allez, on vit qu'une fois. Et quand la victoire suisse est tombée, on a fait péter les panachés.
Oh, carrément.
Oh, et ouais, champomis pour tout le monde. J'ai même pris du Mister Cocktail à un moment.
Non.
Hans, il était complètement pété, il faisait l'hélicoptère. Et devine avec quoi il faisait l'hélicoptère.
Oh bah, je préfère pas demander. Hein.
Avec sa cravate.
Ah, ouf, j'ai eu peur.
Il l'avait mise autour de son zizi. On s'est marré. Oh, Hans, il est déglingo, ce type. Il a fini complètement déchiré la tourtelle. Il a vomi sur une édition originale des pages saumon du Figaro du choc pétrolier de 73. Heureusement que j'avais mis sous verre. Et à 23h45, on est allé se coucher. Oh, 23h45, t'imagines? Oh, quelle soirée!
Oh, remettez-vous, mon cher Nicolas. C'est génial. Moi, je veux voir l'édition mise sous verre, là. Des pages saumon du Figaro de 73. Ah là là. Bon, allez. Hier, Emmanuel Macron et Xavier Bertrand se sont rencontrés. Le président de la France a félicité le président de région dans un échange un peu surréaliste où chacun parlait de ce qu'il souhaitait. On avait un micro sur place. Écoutez.
Ah, cher Xavier, félicitations. Écoute, oui, je tenais à être présent. Le président de la France tenait à féliciter le président, petit président de région pour cette victoire, rappelons-le, régionale, mais victoire tout de même.
Oh oui, vous l'avez dit, et bien observé, j'ai gagné. Oui, j'ai triomphé, j'ai su battre l'extrême droite, j'ai su affronter le racisme, vous le savez, et vous l'avez bien compris, je suis le Nelson Mandela des Hauts-de-France.
Oui, tout à fait, oui, c'est ça, ben, tu vas te calmer, nounours, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a France dans Hauts-de-France que tu peux gagner en 2022. Hein. Allez, je te laisse aller gérer les choix d'arbustes sur les ronds-points des Hauts-de-France.
Oh, le dossier. C'est pas la grande amitié entre eux, en tout cas. Les bons scores de Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse relancent l'idée de primaire à droite. François Fillon, bonjour.
Oui, bonjour. J'aime ma femme et j'adore les primaires.
Vous croyez que c'est une bonne idée de recommencer pour 2022, vous ?
Ah, mais bien sûr, ah bon. Bien sûr. Vous savez, c'est super, les primaires. Je vous rappelle que je les avais gagnées d'ailleurs en 2017. Vous avez vu d'ailleurs où ça m'a mené. Hein, quel parcours après les primaires. Souvenez-vous, il n'y a pas que moi, vous levez les yeux au ciel, mais Benoît Hamon aussi avait gagné les primaires de la gauche. Très belle réussite également aujourd'hui. Donc. Rappelez-moi d'ailleurs la finale déjà, c'était bien, on est d'accord, Macron-Le Pen.
Macron-Le Pen, oui.
Les deux qui d'ailleurs n'avaient pas fait de primaire.
Oui, hein. Enfin, vous, c'est pas à cause de la primaire que vous avez perdu. Hein. C'était surtout à cause de vos costumes sur mesure hors de prix. Hein. Il y avait cette affaire-là.
Ah, d'accord. Ben oui. Donc, c'est votre analyse. C'est parce que j'avais de trop beaux costumes que j'ai perdu. Ben, écoutez, si ça se joue sur la mauvaise qualité des costumes, une présidentielle, ben, je ne savais pas. Donc, ben, du coup, alors Xavier Bertrand a toutes ses chances.
Oh là là.
Même si le super vainqueur en costume de plouc serait bien sûr Jean Castex. Donc je le dis, c'est peut-être ça l'avenir. Castex président.
Ouais, c'est ça, oui. Allez, on va terminer avec le Tour de France. Tiens, on ne parle que du Tour. On en est à la 4e étape. Le Tour fait le Tour de la Bretagne. Il y a eu beaucoup d'émotions quand Mathieu Van Der Poel s'est emparé du maillot jaune qui avait toujours échappé à son grand-père Raymond Poulidor. On retrouve deux voix mythiques du Tour, Jean-Paul Olivier et Bernard Thévenet. Vous nous entendez ?
Oui, bonjour Julie, bonjour Mathieu, c'est Jean-Paul Olivier, dit Polo La Science. Seuls les auditeurs de plus de 85 ans pourront se rendre compte de la qualité, très haute qualité de cette imitation. Nous sommes passés par la jolie petite bourgade rurale, enfin commune rurale plus exactement, de Carnac, située donc dans le Morbihan, connue pour ses alignements de 2934 menhirs.
Oui, c'est ça. Oui.
Le président Valéry Giscard d'Estaing a prévu d'ailleurs de se rendre, nous le savons, sur le Tour dans les tout prochains jours.
Mais vous êtes sûr de... Attendez, vous êtes sûr de ce que vous dites là, Bernard Thévenet, hein, peut-être on va passer à vous un petit mot sur le petit-fils de Poulidor qui s'est distingué là.
Hein, écoutez, pour tous les supporters de Poulidor, c'est l'inquiétude, hein, car Poupou, on le sait, a souffert d'une petite fringale en pleine ascension du col de l'Isoard.
Mais...
Hein, je rappelle que Teddy Merckx, bien sûr, nous le savons, hein, a déclaré forfait pour ce Tour. Jop Zoetemelk, Jop a laissé Raymond Poulidor à plus de deux minutes après l'ascension du Ventoux, donc c'est inquiétant
quand même. Non mais attendez, Bernard, vous êtes sûr de ce que vous racontez là? Raymond Poulidor, c'est le grand-père, il est décédé en 2019, donc ça m'étonnerait qu'il court cette année. Hein,
ah oui, oui, pardon, autant pour nous, hein, autant pour moi, en tout cas là, je vois que je me suis gouré, parce que là j'ai pris les fiches de l'époque, c'est le Tour 1977.
D'accord.
Bravo Nicolas Canteloup, j'ai pas la référence vocale de Jean-Paul Olivier, je l'avoue, je le concède, mais j'aime beaucoup cet exercice à la fin. Le Tour de France, merci Nicolas Canteloup, merci Julie, et bravo aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. 8h58, il est là, Philippe Vandel, bien sûr qu'il est là. Culture
oui,
Média va
tout
démarrer.
À fait, ouais. Bon. Moi, j'ai pas 85 ans, mais j'ai la référence vocale et c'était absolument parfait. Bravo Nicolas Canteloup. Notre info média du jour dans Culture Média va s'intéresser à une ascension puis à une chute, Rise and Fall, celle des Balkany à travers un documentaire qui nous aide à
Rise
comprendre.
Rise and Fall of the Balkany.
Comment ils ont pu échapper à la justice pendant 30 ans avec beaucoup de séquences très très fortes. On sera avec le réalisateur du documentaire, Félix Seguer. Et puis au sommaire également, un accord entre YouTube et le Centre National du Cinéma, le CNC, pour promouvoir le cinéma. C'est la fête du cinéma qui commence demain. Accord annoncé ce matin et nous serons dans ce studio avec la directrice de YouTube France, Justine Rist. Et puis la comédienne Catherine Fro, qui se fait très rare. Elle est à l'affiche du film La Fine Fleur, premier film qui se passe dans l'univers horticole et notamment les Concours de Rose, elle sera ici avec nous.
Philippe Vandel, c'est Culture Média de 9h à 11h avec toute son équipe bien sûr. Je vais vous souhaiter une très belle journée, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.